Bienvenue à Podcast. Un fauteuil est venu.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir. Un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde. Des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de 3 merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans cet épisode 26, c'est avec grand plaisir que je reçois Tiphaine et Raph, un couple nomade qui vient partager l'histoire peu commune de la naissance de leur enfant, dans leur campeur, dans une forêt en Bulgarie. Une naissance intense qui s'étale sur plusieurs jours, pleine de rebondissements, mais surtout une ode à la reconnexion à soi et au monde. Une jolie preuve, s'il en faut, que la chance, ça se cultive.
Belle écoute au podcast.
Ben merci, je vous souhaite la bienvenue.
Merci beaucoup.
Ben voilà, vous faites partie des premières personnes que je fais la démarche de contacter moi-même, parce que jusqu'à maintenant, j'attendais que les personnes me sollicitent. Et là, je me suis dit, oh, quand même, cette histoire, moi, j'ai vraiment envie de l'entendre.
Ben, on est une famille nomade. Moi, je suis Tiphaine. Je vis en véhicule depuis 2 ans et demi. Avant, j'avais une vie, standard, appartement, travail, etc. Et j'avais plus envie de travailler autant, j'avais envie vraiment de profiter de la vie en fait. J'avais aussi d'être plus en contact avec la nature, ça m'allait plus du tout d'ouvrir le robinet puis de pas savoir combien de litres d'eau j'utilisais, d'allumer la lumière puis de pas savoir combien d'électricité je dépensais. Je faisais déjà énormément de choses dans le but écologique, mais ça suffisait pas, enfin c'était pas suffisant. Et du coup j'ai trouvé l'alternative d'habiter en van, donc j'ai créé mon premier van il y a 2 ans et demi, et en fait j'ai rencontré Raph quasi direct après, 3 mois après, qui lui habitait déjà en véhicule.
Ok.
Ouais, moi j'habite, ça fait depuis 2013 que j'ai plus d'appartement, et puis au départ je suis parti voyager en Asie, puis après en revenant j'avais pas envie de me retrouver un appart, parce que j'avais remarqué que à force de dormir toujours dans son véhicule ou sous tente, il y a un problème de bougeotte. Donc du coup je me suis installé dans un premier van qui était aménagé à mes soins, mais j'avais aucune idée comment que ça se passait. Puis moi j'avais vraiment besoin de bouger, de pas être, on va dire, stable entre guillemets. Et puis je fais beaucoup de sport extérieur, donc du canyoning, du ski, la grimpe et tout ça. Puis du coup c'est vrai que quand on fait des sports comme ça, de vivre dans un véhicule, ça nous convient parfaitement, parce qu'on peut aller sur chaque spot, puis autant en été, en hiver, puis bouger. Donc c'était vraiment le mode de vie qui me convenait en vivant comme ça dans un véhicule. Et puis à côté, je travaillais un petit peu. Donc avant ça, j'avais une vie, on va dire, que je ne vais pas trop en parler, mais une vie normale, quoi, un peu standard. Puis c'est vraiment avec mes voyages que j'ai commencé de changer. Et puis j'ai fait aussi quelques aventures justement à but humanitaire. J'essayais de récolter des dons pour des enfants de pays défavorisés, et puis de faire parler de moi, et puis de trouver, on va dire, des sponsors qui me payent, mais à l'argent je le reversais à des associations. Mm-hmm. Puis j'ai fait la descente du Rhône au complète à la nage, j'ai descendu le 800 km sur le Mekong en Asie, j'ai traversé mon pays avec 2 francs par jour pour me nourrir. J'ai fait pas mal d'expéditions comme ça. Et puis à côté, je faisais des petits boulots pour travailler, parce que comme je dis, j'étais pas sponsorisé. Mmh. Il fallait bien que je vive. Et puis voilà, puis après, j'ai rencontré Tiphaine.
Et puis du coup, nous, c'est vrai qu'on avait vraiment cette envie de partir habiter ensemble sur les routes du monde, puis plus forcément revenir en Suisse, qui est notre pays d'origine. Et puis on ne se voyait pas en fait fonder une famille dans la société standard. En fait, ça ne nous convenait pas du tout. C'est vraiment notre mode de vie en fait, d'habiter sur les routes. Et puis on s'est dit, mais le jour où je tombe enceinte, on part quoi.
Yes. Puis, on part, c'est
un... En fait, on n'était pas censé.
On était déjà parti, ouais. Quoi, du coup, on vivait déjà sur la route. Mais c'était vraiment. On change, vu que là on travaillait, on revenait chaque fois pour travailler, bah, comme moi en Suisse, ou bien Tiffany, on était quand même un peu ancré en Suisse. Et puis on a dit, bah, le jour où c'est que. On avait envie vraiment de partir faire notre famille le long de la route.
C'était pas juste une hobby d'un moment où après vous alliez vous ranger la famille avec l'appart, la balance.
C'est dans l'inverse quoi. Yes. Et puis du coup, bah, je suis tombée enceinte au mois de janvier.
Ouais, normalement c'était prévu un peu plus tard. Quand on avait dit, parce que
j'avais le
stérilet
au cuivre.
Elle avait le stérilet, puis du coup, on avait dit, le jour où c'est qu'on part, parce qu'il fallait qu'on prépare le véhicule. Elle voulait finir de tatoueuse, donc elle voulait finir des pièces de tatou. Moi, je voulais faire encore une saison à la montagne. Puis on avait prévu de partir en été 2020. Mm-hmm. Et puis du coup, on a dit, dès qu'on part, dès qu'on est sur la route, on lève le stérilet, puis on verra ce qui se passera. Mm-hmm. Sauf que bébé, lui, il a décidé de venir plus tôt. Et c'était au Maroc quand on est allé tester le véhicule. En hiver 2019-2020, qu'il a décidé de venir. Donc, on a réussi à faire les choses, quoi.
Et puis, du coup, après, je suis allée faire enlever le stérilet directement. Mm-hmm. Parce que vous avez dit, justement, c'est soit on prend le risque que tout parte maintenant, soit on le laisse, mais il y a des risques qui partent plus tard. J'ai dit, je suis prête à le perdre maintenant, mais pas 4-5 mois, je pense. Mmh. Puis du coup, en fait, notre mini bout de chou, il s'est accroché. Mmh. On est quand même parti en juin. Il y a tout le monde qui nous disait, maintenant que Tiffany est enceinte, vous allez peut-être rester en Suisse, vous n'allez peut-être pas partir, vous allez retarder votre...
En fait, on n'a pas du tout changé nos plans. Mmh. On s'est juste adapté. Et puis, par contre, on a laissé faire... On s'est dit, si cet enfant il voulait venir là, parce qu'il a passé la barre du stérilet, après il a passé l'enlèvement du stérilet, après Tiffen, c'est encore, on s'est ramassé les deux le corona.
Ouais.
Ouais. Donc on a eu tout ça, et à chaque fois, c'était OK. Donc,
il était toujours en pleine forme.
C'est le bon moment, vraiment. Quoi.
Lui, il veut vraiment venir. Donc on a vraiment laissé faire les choses. Et puis, puis c'est comme ça dans tout, c'est rigolo. Même durant l'accouchement, on a laissé faire les choses. Et puis, c'est un peu lui qui a décidé. Quoi.
Ouais, c'est vrai. Après, on s'était préparé. C'est comme on dit souvent, on avait vraiment ce projet, si possible, d'accoucher dans la forêt, dans notre véhicule. Là, on était en Bulgarie. Mais après, on voulait pas prendre de risques inutiles. Et on n'a pas du tout fait les choses de manière inconsciente et puis de manière un peu hurluberlu, comme les gens souvent nous disaient, vous êtes inconscient. Alors non, en fait, on s'est vraiment préparé à fond. J'ai lu énormément. On a suivi une formation en ligne. On a lu, on a écouté des podcasts. Enfin, on a vraiment... On s'est plongé dedans, mais...
Enfin, toi, tu t'es plongé dedans, moi...
Moi, je lui faisais le feedback.
Moi, je voulais pas, mais c'est qu'il y a des trucs... Le papa, il comprend plus rien au bout d'un moment. Des termes, des trucs... puis, c'est vrai que c'est pas le papa qui ressent toutes les premières sensations et tout, donc... C'est pas, on a beau dire ce qu'on veut, on est là, puis on attend. Quoi.
Je veux dire,
on
peut pas...
Après, il faut juste observer. Moi, c'est ce que je disais. J'ai beaucoup observé. Normalement, j'ai un peu laissé tomber le truc parce que c'est comme je pense tout, comment dire, toute grossesse, tout accouchement, puis tout ça, y a des tensions. Normalement, c'est un gros changement pour autant l'homme que pour la femme. Mmh. Et puis voilà. Puis du coup, moi, j'ai laissé un peu. J'ai plus, comme je disais, observé Tiffen que de me dire, moi, je vais écouter des podcasts ou des trucs parce que je comprenais rien. Donc, j'ai préféré l'observer puis regarder. Puis j'ai vu que ça, qu'elle était en confiance d'écouter ces choses-là. Donc après, je l'écoutais, même que les trois quarts du temps, je comprenais rien au terme et puis tout ça. Et puis, mais par contre, après, on a tout. Ouais, je m'intéressais à fond. Mais de m'intéresser à quelqu'un qui parle d'un podcast ou d'une naissance, quand on voyait qu'à chaque fois on revenait sur le fait que chaque accouchement est différent, je voulais pas prendre l'exemple sur une personne qui avait déjà accouché ou quoi que ce soit, parce que ça peut être un bon exemple comme un mauvais, vu que finalement chaque accouchement est différent. Donc du coup, bah, je regardais plutôt beaucoup Tiffen, quoi.
Oui,
de dire si au moins je connais la personne qui va mettre au monde mon enfant, bah, je pense que c'est d'abord ça qu'il faut que j'apprenne, mm-hmm. que d'apprendre des vidéos ou des autres choses, quoi.
Mais oui, bien sûr. Et du coup, depuis le départ, vous aviez l'idée d'avoir une naissance naturelle plutôt dans votre van et entre vous, quoi.
Alors, au départ, tout au départ, oui. Alors, de toute façon, si on pouvait éviter l'hôpital, c'était sûr qu'on l'éviterait.
Mm-hmm.
Et, parce qu'on est les deux pas du tout dans cet esprit-là. Enfin, moi, je suis assistante vétérinaire à la base, donc je viens quand même du milieu médical. Puis mm-hmm. j'ai eu un chien qui m'a retranché qui m'a poussée dans tous mes retranchements.
D'accord.
Et en fait, j'ai découvert le naturel grâce à lui, parce qu'il était intolérant aux colorants, aux conservateurs. Mmh. Et puis du coup, bah, ça m'a amené à moi, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je dépense, qu'est-ce que j'utilise. Enfin, il m'a vraiment... Mmh. C'est grâce à mon chien aujourd'hui que je vis en van, puis que j'ai cette vie-là, vraiment. Mais du coup, bah, j'ai vraiment ouvert les yeux sur le côté médical, sur les médicaments, sur tout ce qui était... plus naturel, en fait.
Mm-hmm.
Et pour moi, c'était vraiment une évidence, et pour Raph aussi, que si on pouvait éviter l'hôpital, on l'éviterait.
Mm-hmm.
Mais c'était pas... on l'excluait pas totalement, parce que y a des fois, il y a besoin.
Oui, bien sûr.
Donc pour les cas où il y a besoin, heureusement qu'il y a l'hôpital. Mais après, notre avis à nous, c'est que s'il n'y a pas tout le temps la nécessité de le faire, et l'accouchement, c'est pas obligé d'être un acte médical, c'est normal, c'est physiologique, les femmes accouchent depuis que le monde est monde, et puis on n'en serait pas là s'il y avait besoin de médicalisation depuis autant de temps, en fait.
Mais après, c'est déjà parti aussi que les contrôles, à chaque fois qu'on allait faire des contrôles, en tout cas pour moi de mon côté, c'est que à chaque fois, ils ne pouvaient pas nous dire exactement, bah, c'est normal, la médecine ne veut pas donner des réponses à 100%, parce que ça, sinon ça leur fait des... comment dire...
Ils ne veulent pas se mouiller, en fait.
Donc, à chaque fois, c'est oui, ben, y a tout qui est bien. Par contre, il y a un petit pourcentage. Donc, ça serait bien de refaire ci, de refaire ça.
Mm-hmm.
Puis, au bout d'un moment, c'est ce que je disais à Tiffen, soit, ben, après, moi, je donnais aussi mon avis. Après, je voulais vraiment qu'elle se sente bien. C'était le but premier. Donc, si elle faisait des trucs que peut-être moi, je n'avais pas très envie, mais je disais, c'est d'abord le choix. Parce que moi, ça me mettait en confiance aussi qu'elle fasse ces choses qu'elle avait envie. Mm-hmm. Mais à chaque fois, ça revenait que finalement, j'étais à même écoute, on peut refaire un test, mais ils veulent nous dire ça ou ça. Donc, moi, je suis plutôt du genre, des fois, c'est dur, mais c'est comme ça, de se dire, ben, oui, alors on peut avoir un enfant trisomique ou mal formé, c'était presque pas possible physiquement, parce qu'on avait fait les tests pour voir et puis tout était bien. Mais après, pour donner l'exemple de la trisomie ou, je sais pas, autiste ou quoi que ce soit, ben ça, c'est quoi? La médecine nous dit oui, ben, à 99%, c'est OK, il reste 1%. Puis quand il est né, ben, c'est 1%, ben, t'as ton enfant qui est trisomique. Le truc, c'est que l'enfant, il est trisomique. Donc, je pense qu'avant d'écouter toutes sortes de choses qu'on peut nous dire, ben, c'est de se mettre dans la tête, est-ce qu'on accepte un enfant trisomique ou autre. Je dis trisomique, hein, mais ça peut être plein d'autres choses.
Oui, bien sûr.
Et du coup, moi, je me mettais plus dans la tête. J'ai pas envie de faire tous ces tests, parce que là, on a fait le premier, on a vu le maximum qu'on pouvait. Mais après, on a plus envie de faire de tests, parce que je préfère me mettre dans la tête. Je suis prêt à accepter un enfant pas comme les autres, que d'attendre sur la médecine. Puis après, ça fait quoi? Bébé, il naît, et puis on dit, ouais, bah, vous nous avez dit que c'était un bébé qui était OK, puis maintenant il n'est pas OK, on fait quoi? On vous le redonne? Non, mais je sais pas, moi je suis plus à avoir toutes les choses comme ça. Puis c'est ce qui a fait aussi que moi j'étais plus motivé aussi à ne pas accoucher à l'hôpital, parce que je préfère garder nos responsabilités à nous. C'est nous qui le faisons comme ça. Donc du coup, bah, ça nous permet aussi de plus s'informer, comme elle l'a fait Tiffen, puis de plus être dedans. Que souvent les gens ils vont à l'hôpital puis ils savent rien, en fait. On l'a vu après avec tout ce qu'on a fait nous. Il y a même des sages-femmes qui nous posaient des questions sur l'accouchement et tout. On était là, mais c'est pas notre métier, quoi, je veux dire. Et c'est rigolo, parce que c'est rigolo et c'est dommage, on trouve beaucoup, parce que les gens ils s'intéressent plus à...
Mais il n'y a plus cette transmission, en fait, de femme à femme, de mère à fille. Et puis j'ai l'impression que le patriarcat et la médecine ont volé, en fait, cette transmission. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé notre chaîne YouTube et puis notre compte Instagram. Parce qu'on a dit, soit on garde tout pour nous et puis on ne se fait pas démonter, si on peut dire ça comme ça. soit on prend le risque d'avoir des critiques et puis des choses comme ça, mais au moins ceux qui veulent faire des choses différemment, bah, ils peuvent le voir, ils peuvent voir que nous on a fait des choses différentes, que ça comporte aussi des risques, hein, c'est sûr, mais au moins on peut le dire, on peut partager. Et puis nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de partager, puis c'est de transmettre ce que nous on a appris, ce que nous on connaît, pour montrer en fait un nouveau paramètre, puis une nouvelle vision qui en fait n'est pas si nouvelle. Enfin, c'est assez basique finalement ce qu'on fait.
J'imagine qu'après, avec les choix que vous avez fait de nomadisme, vous aviez déjà été confronté aussi à la mécompréhension, au questionnement. J'imagine bien que, pour l'avoir vécu pour le coup, que l'entourage n'est pas toujours très ouvert, au moins dans le départ. Après, que ça soit accepté, c'est une chose.
Mais ça, c'est clair que même dans tout ce qu'on a fait avant, comme moi, mes aventures, des choses comme ça, de toute façon, quand on va pas dans la direction de la plupart des des gens, et ben de toute façon, on sera automatiquement critiqué. Après, on peut faire quelque chose de mal ou de bien, mais quand on fait la chose jusqu'au bout, ben là, les gens, ils voient que tu fasses quelque chose de bien ou de mal, mais quand tu vas jusqu'au bout, ils voient que t'es déterminé, puis que t'as un bon, que tu t'écoutes. Et après, ben il faut juste faire les bonnes choses. Donc c'est clair que nous, pour nous, il y en a certains, ils veulent nous dire, ben, on est bornés, on est allé jusqu'au bout. Mais ouais, on est allé jusqu'au bout, on a fait ce qu'on voulait, vraiment jusqu'au bout. Puis après, on le partage. Après, qui veut pas. De toute façon, c'est ce qu'on dit tout le temps, comme notre chaîne YouTube ou nos réseaux sociaux, que ça marche ou que ça marche pas. Si un jour on veut arrêter, on arrêtera. Et tout pendant qu'on veut continuer, on continuera. Que ça marche ou que ça marche pas, parce qu'on a envie de le faire.
Puis on sélectionne aussi ce qu'on veut partager.
Ouais, aussi, ouais.
On partage pas non plus tout. On sélectionne vraiment le chemin qu'on a envie de montrer et aussi de partager.
Oui, bien sûr. Les personnes, j'imagine, sont quand même de plus en plus conscientes de ça, évidemment. Mais du coup, c'est la part du colibri. Enfin, je le vois vraiment comme ça aussi par rapport à votre partage. De dire que c'est beau d'offrir qu'il y a d'autres possibilités et qu'en effet, j'imagine que pour beaucoup de personnes, enfin, moi, c'est quelque chose qui me marquait énormément quand mes enfants, quand j'étais maman solo avec mes deux grands, où je bougeais un petit peu partout à travers la France, et on me disait, mais oh là là, mais moi, quand je dois partir un week-end avec mon enfant toute seule, c'est la panique. Et en fait, ben ouais, c'est une histoire d'habitude. Après, c'est une histoire d'organisation. C'est voilà, on sort, la zone de confort n'est pas la même non plus, quoi.
Ah, c'est clair. Et puis, on s'adapte aussi en fonction de ce mode de vie. Mais d'avoir aussi un mode de vie comme ça, on se rend compte qu'on a besoin aussi de beaucoup moins de choses. Et en fait, on se complique beaucoup moins. Enfin, souvent, plus on a de matériel, plus on a de possibilités d'avoir de la place et des choses comme ça, plus on se complique.
Ben là, on le voit en appart. On n'a jamais été en appart. Puis là, on est en appart pendant un mois et demi parce que justement, on doit refaire toute la cellule. Ouais. Et puis, c'était la solution la plus onéreuse pour nous et puis la plus pratique. Donc on n'a pas
au début on voulait louer un camping-car ou une caravane, mais c'était
pas possible, 10 fois trop cher. donc du coup on le voit, et après on s'est dit bon, on va prendre ça comme une expérience, on fait un mois et demi d'appart pour voir peut-être que ça va changer et tout. Et ben c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Après oui, tu tournes le robinet, t'as de l'eau chaude, tu veux prendre des douches. Tu prends 15 douches par jour, tu veux laver ton linge, tu le laves 15 fois par jour. Mais après, tu te dis, ouais, c'est super, tu laves 15 fois ton linge par jour, mais tu fais plus attention à ce que tu faisais attention avant. Par contre, tu perds toute autonomie parce que tu te rends plus compte des choses. Comme là, on est enfermé, on peut sortir, mais rien que de sortir, c'est tout un bordel pas possible. Quand on vit dans notre campeur, on ouvre la porte, on est où c'est qu'on est. Si on est devant la plage, on ouvre la porte, on est devant la plage.
Et oui, c'est sûr.
Il n'y a pas besoin d'aller sortir le chien, sort tout seul.
Après 2 semaines, on a tout de suite compris que ça ne nous convenait pas. Quoi.
2 semaines, c'est bien.
Ouais.
Mais bon, il reste encore un mois.
C'est ça. Ouais. Et du coup, comment vous êtes organisée par rapport au suivi de grossesse? Parce que j'imagine que le fait de bouger, on peut pas faire comme la plupart des gens de manière classique et qu'on a une structure ou une sage-femme qui va les accompagner tout le long.
Alors nous, on n'avait pas de sage-femme. On a fait en fait le contrôle des 3 mois avec justement les prises de sang, l'échographie, etc. Et on était en Suisse, mais tout près de la frontière française. Et on est allé en France on a pris le...
Parce qu'on ne pouvait pas payer, c'est aussi simple que ça, c'est que tous les soins en Suisse étaient... On n'a pas beaucoup d'argent, puis c'est clair qu'on ne pouvait pas payer. Donc,
C'était facile, hein, c'était 10 fois le prix
Ça commençait déjà là, c'est que les gens nous disaient, ouais, mais maintenant, si vous avez un enfant, il va falloir travailler. Donc, quand je dis travailler, c'est qu'on travaille tous les jours. Notre vie, c'est un travail parce qu'on a tellement, on a plein de choses à faire. Quand tu vis en van ou en campeur ou en véhicule d'habitation, tu dois aller chercher ton hôte, tu dois, tout est beaucoup plus,
notre travail,
compliqué.
C'est de
vivre. Voilà, notre travail, c'est de vivre. Alors, tout le monde a dit, vous avez un enfant, maintenant, tu vas te reposer, avoir un appartement et puis devoir travailler pour payer toutes les choses. T'es là, mais non. Pas forcément. Puis, donc, dès qu'elle était enceinte, Tiffen, ça commençait déjà là. Puis, petit à petit, on a montré que non, on peut trouver moins cher. On peut trouver. Après, on n'est pas obligé de faire tous les examens.
Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de recul sur les échographies non plus sur les bébés. Mm-hmm. En faire beaucoup, je ne sais pas si dans 100 ans, on se dira qu'en fait, ce n'était pas bien d'en faire tous les mois et des choses comme ça. Et après, du coup, nous, on a fait juste l'échographie des 3 mois. Je me sentais bien, on sentait que bébé grandissait bien. Après, c'est notre choix d'avoir dit, on fait l'échographie des 3 mois. Ça a été assez anxiogène. Enfin, tout le temps, c'était, est-ce que vous lavez bien vos fruits et vos légumes? Et puis, il y a un petit risque de trisomie.
Ils ne nous mettaient pas du tout en confiance.
Non.
Mmh. Et puis, en ne nous mettant pas en confiance, nous, on n'était pas bien. Puis du coup, en général, quand on n'est pas bien, on enlève vite le problème. Puis là, le problème, on a vite remarqué ce que c'était. Donc, on a dit, on va arrêter de faire des tests. Quoi.
Mais par contre, si j'avais été pas bien, on avait senti qu'il y avait peut-être quelque chose à
faire, on aurait
fait d'autres contrôles. Mais c'est vrai que là, je me suis sentie vraiment bien tout le long, vraiment jusqu'à la fin. J'ai jamais eu de symptômes particuliers. Donc, du coup, on a dit, on fait le contrôle des 3 mois.
Après, on n'était pas, pour revenir à la question, on n'était pas suivi par une sage-femme. Puis c'est vrai que quand on est parti, on avait regardé, parce qu'on savait qu'on allait partir dans les pays de l'Est de l'Europe, déjà parce qu'on voulait des pays chauds, donc le Sud. Donc, au début, on pensait l'Albanie. Ouais. Et puis, parce qu'ils ont aussi des bonnes valeurs familiales, et c'était important pour nous. Mm-hmm. Et puis après, on s'est dit, on va trouver une doula ou une sage-femme là-bas. Mais du coup, on a avancé, on a commencé notre périple, puis on ne trouvait pas, parce qu'en fait, ça...
C'est un métier tellement récent.
Ça n'existe pas, quoi.
Typiquement, en Croatie, en Albanie, au Monténégro, les pays où on a demandé, même sage-femme, c'est des métiers qui sont tellement récents qu'elles ne sont qu'en structure hospitalière. Donc, il y a encore moins d'accouchements à la maison. Donc, si ça se passe à la maison, c'est que c'est en général soit pas prévu, soit c'est avec l'entourage ou comme ça. Mais la plupart des gens vont en hôpital ou en structure. Et il n'y a pas vraiment de possibilités alternatives dans ces pays qu'on avait choisis, en tout cas.
Ouais, donc du coup, on est arrivé en Albanie. Non, en Albanie, on a décidé de partir en Bulgarie parce qu'il faisait trop chaud.
Ouais,
on s'est dit, on va se poser vers un hôpital et tout. Et puis, au bout d'un moment, genre 2 mois avant, on s'est dit, de toute façon, on ne va pas trouver de sage-femme ou de doula ou quoi que ce soit. Faudra qu'on fasse nous-mêmes, quoi.
Oui. Et puis, du coup, on s'est plus renseigné dans ce sens-là. C'est là que j'ai suivi la formation de Quantic Mama, de Vortex de la naissance, de la douleur, etc. Et puis, on s'est vraiment préparé... les deux là-dedans, dans ce sens-là. Mais notre critère pour se poser à un endroit, c'était qu'il y ait une rivière, parce qu'il nous fallait de l'eau, mais beaucoup d'eau à disposition pour laver les affaires, etc.
Un endroit calme
où on se sente bien et proche d'un hôpital. On voulait quand même être proche d'un hôpital au cas où. Mm-hmm. Donc on a trouvé un endroit dans la forêt, en Bulgarie, où c'était en altitude. Alors en plein été, quand on est arrivé, c'était génial parce que les journées étaient belles, mais la nuit était plus fraîche, ce qui n'était pas le cas dans le reste du pays. Et on a trouvé justement une rivière, des sapins.
Ouais, le lieu, on s'y sentait vraiment bien. Donc, à la base, on voulait se mettre aussi près de la mer. Et puis, on est allé à un endroit vers la mer, on avait tout cherché. Puis, c'est marrant parce qu'on est allé à ce lieu par hasard. Puis après, on est quand même retourné à ce lieu après être allé visiter des endroits vers la mer. Et puis on a dit non, mais il faut que ça se fasse ici parce que c'est ici qu'on se sent bien. Et puis pourquoi, on ne sait pas, mais les deux, on se sentait bien ici. Donc on a laissé faire les choses. Et puis on a dit, bébé, il arrivera ici. Donc du coup, on est resté 2 mois.
Ouais.
Avant que bébé il arrive, on est resté 2 mois là, donc, histoire de bien s'ancrer, de bien se mettre à l'aise de l'endroit où c'est qu'on est. Et puis, Et puis c'est vrai que d'habitude, on était plutôt du genre à bouger tous les 2-3 jours de l'endroit où c'est qu'on était. Puis là, ben, on était très bien à cet endroit. Donc,
puis c'était rigolo parce qu'autant on avait prévu d'être vraiment seul pour ce moment de l'accouchement. Et en fait, il y a eu 2 semaines avant l'accouchement, ouais. On a eu des copains suisses qui sont en voyage aussi, qui nous ont dit « Ah ben, on peut pas traverser plus loin en Asie parce qu'ils étaient en Turquie ». Et ils ont dit, bon, bah, du coup, on retourne en Bulgarie. Ça vous va si on vient vous dire bonjour, puis on passe un moment avec vous? On était, ah, bah, c'est génial, à fond. Mais par contre, si je dois accoucher, c'est vrai que nous, on se disait, pour le moment de l'accouchement, on veut vraiment être seul. Donc, après, juste si vous pouvez être en retrait à ce moment-là, voilà, mais avant, après, il n'y a pas de souci.
Histoire de refaire un petit stock d'ocytocine avec les copains aussi.
Exactement, ouais, c'est important.
Ils sont venus aussi avec un couple d'Allemands qu'ils avaient rencontré en Turquie. Et on s'est fait une semaine avec le couple d'Allemands et le couple d'amis suisses. Vraiment génial. Après, le couple d'Allemands, eux, sont partis continuer la route.
Et puis, on était tous dans la même... On était vraiment dans un monde. C'est rigolo parce qu'il y avait... Il y avait ces histoires de coronavirus, de tous les trucs dans le monde. Et nous, on mangeait tous dans la même... Ça faisait vraiment une communauté qu'on avait créée, qui nous allait parfaitement. On mangeait tous dans la même assiette. On se faisait des petits plats. Il y a tout le monde qui... Ça puait le bonheur, quoi. On a même fait un sauna, de sudation à l'extérieur. On se faisait des saunas le soir, puis tout avec la nature, on allait faire de la cueillette, on faisait tous les soirs des feux, on jouait de la musique. Franchement, la déconnexion totale, quoi.
La reconnexion totale.
Ouais, mais la déconnexion avec la société totale.
Ah, carrément, c'est génial. Et ouais, je me disais, il y a quelque chose qui est, moi, je trouve, alors, moi, j'en suis convaincue, hein. Mais je trouve ça chouette que vous vraiment portiez ce message-là, parce que ça me semble hyper important et je pense que ça fait vraiment partie des croyances à déconstruire. Quand on a dans l'idée que les personnes qui vont accoucher hors structure, alors elles sont un peu inconscientes, déjà quand elles sont suivies avec une sage-femme spéciale qui accepte d'accompagner les accouchements à domicile, tout ça. Mais en plus, quand il y a pas de personnel médical, c'est quand même vu avec un œil un peu sceptique, avec, bon, ils sont un peu fous quelque part, quoi. Et du coup, je trouve ça chouette que vous mettiez vraiment en avant le côté, ben, évidemment, si on avait senti à un moment donné qu'on avait besoin, et ben voilà, on voulait pas forcément à tout prix ne pas y aller à l'hôpital.
Ouais, c'est
et bah, même en fait, on doit dire qu'on y est allé.
Ouais, mais du coup, c'est ça, votre histoire. Ouais, racontez-nous un petit peu du coup.
Bon, après, c'est ce qu'il faut pour ce que tu veux dire là, c'est que en fait, pour éclaircir les gens ou les choses que nous, quand on était tout seul, donc un mois avant de. Quand on a su qu'on allait accoucher tout seul. Avec Tiffen, c'est ça que les gens maintenant ils ont peur, c'est que le monde ne veut plus être responsable de tout. On a peur de tout et on a peur de la mort. Oui, ben c'est clair. Nous, avant l'accouchement, on a parlé avec Tiffen et puis on a dit bon ben si il arrive quelque chose, c'est clair que on va, s'il faut, on va aller à l'hôpital, s'il faut, on va tout faire pour que ça aille, ça c'est clair.
Mais on était pas naïfs.
On était conscients que, enfin surtout moi, parce que moi, je risquais rien dans l'histoire. Après, par contre, quand il y a eu le moment de l'accouchement, je savais que ma copine pouvait me laisser dans les, ouais, me claquer dans les doigts. Et puis, je savais aussi que mon enfant ou les deux pouvaient me claquer dans les doigts. Et ça, c'est une responsabilité énorme. Mais je l'ai prise totalement. Après, on va toujours me traiter de fou pour aussi tout ce que je fais. Mais c'est dans toutes mes aventures aussi, quand j'ai descendu le Rhône, je me dis ouais, mais c'est dangereux. Ben, quand tu descends un fleuve à la nage, où c'est que tu sais que tu peux mourir, ben, si tu sais que tu peux mourir, puis que tu y vas, et ben, au moins, tu es conscient que tu peux mourir. Mais si tu t'ignores ces choses-là, et ben, moi, j'ai ressenti la même chose pendant l'accouchement. J'étais prêt à vivre quelque chose de puissant et puis voilà. Après, je dis pas comment j'aurais vécu la chose si Tiffen ne serait plus là ou si bébé ne serait plus là actuellement. J'aurais assumé, je sais pas dans quel état je serais, mais j'aurais assumé totalement le truc. Mais maintenant, c'est ça, les gens ils nous disent oui mais là tu te dis parce que tout s'est bien passé, mais si admettons il y aurait eu un, ouais, les gens pensent toujours à ça. Mais pour moi, dans ma tête, je le réponds tout le temps, ben, admettons que Tiffen ne serait jamais revenue de cet accouchement. Et ben, que ça soit à l'hôpital ou que ça soit dans la forêt, moi tout seul, et ben, franchement, je m'en voudrais moins que je sois tout seul dans la forêt qu'à l'hôpital. Parce qu'avant, on en a parlé les deux, et puis avant, ben, c'était notre choix à nous deux de faire ça comme ça. Donc au moins, on était dans la bonne direction envers nous, envers notre conscience, quand on a fait l'acte, que si j'avais dit non, mais moi je veux que tu ailles à l'hôpital, on partait à l'hôpital, puis pour quelle et telle raison elle serait pas revenue, et ben là je m'en serais voulu toute ma vie parce que c'était pas son choix. Tandis que là c'était le choix de nous deux. Après, oui, il y a bébé qui est là, ben bébé par la suite il nous a bien fait comprendre que lui il voulait pas non plus aller à l'hôpital.
Non, c'est ça qu'on dit, on n'était pas naïfs, on s'était renseigné, on avait conscience que des risques. Mais par contre, on avait aussi tellement appris que s'il y avait des problèmes, on aurait su les détecter. D'ailleurs, on a su les détecter, puis on a pu se dire « Ah ben là, à tel moment, il y a un problème. » Et ça aussi, il faut en être conscient. Mais à l'hôpital, on ne prépare pas forcément à la mort. Moi, toutes mes copines qui ont déjà accouché, on ne les a pas préparées à ça. On ne leur a pas dit « Voilà, vous êtes consciente qu'accoucher, ça comporte un risque. Votre bébé peut être mort-né. » Où vous pouvez mourir aussi des suites de complications.
Et malheureusement,
parce que vous n'avez pas de matériel nécessaire, mais ça arrive encore. Et c'est quelque chose qui existe aussi, c'est un risque aussi en hôpital ou en structure. Et ça, des personnes n'en sont pas forcément préparées. On en avait parlé, et puis c'était quelque chose d'important pour nous d'en parler, et puis d'en être conscient. Mais voilà, de l'éviter à tout prix quand même.
Mais en général, quand tu es conscient du truc, c'est que tu prends une responsabilité. Et puis quand tu prends une responsabilité, ben, tu ne vas pas faire les choses, la même chose que si tu les prends.
Et j'ai envie de dire, si sincèrement, c'est pareil, c'est, en termes de risque, c'est un truc, on le voit à l'heure actuelle. Et c'est malheureux, je trouve, comme quoi la naissance, c'est quelque chose qui est foncièrement risqué. Et heureusement, non, à la base, la naissance, c'est quelque chose qui est sécuritaire et... Il peut arriver des choses où là, il y a besoin d'intervention. Mais c'est loin d'être la majorité des cas, en fait.
Ouais. C'est ça, c'est rare.
Nous,
c'est
pour ça qu'on
a pris cette décision d'accoucher entre nous. Oui, mais surtout entre nous, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui, si tout se passe bien et que c'est physiologique, tu n'as pas besoin de l'hôpital. Et c'est vrai que... Bah...
Puis on s'est mis à côté. Ouais, on était à un quart d'heure, 20 minutes d'un hôpital. Donc... si on voyait que ça partait vraiment pas bien, on pouvait y aller. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait.
On peut peut-être rentrer un petit peu dans le vif du sujet.
Allez.
Mais du coup, c'est vrai que ça a commencé le soir à 7h. Bon, on revenait d'une bonne marche. On marchait tous les jours encore bien. Puis là, on revenait d'une bonne marche. Puis déjà, en arrivant au campeur, j'étais à oulala, je commençais à avoir de la peine à marcher. Je dis, ouais, à mon avis, c'est pour cette nuit. Et puis du coup, c'est vrai qu'on a commencé à calculer les contractions, on regardait que ça commençait à être bien régulier, ça montait en intensité, mais au début, en fait, j'étais tellement préparée à la douleur, j'étais tellement préparée à ça, j'avais tellement de plaisir, en fait, j'avais vraiment pas du tout de douleur, enfin, c'était vraiment, je peux dire, vraiment génial, quoi. Et puis, ça a duré toute la nuit, ça allait, c'était bien, mais voilà. Pas de mini bout de chou.
Il y a eu un moment où c'est que c'était dans la nuit, où c'est que moi j'ai vu le bas du ventre, l'approche vers le vagin, la tête bouger, vraiment descendre. Et pour moi c'était genre, waouh, il est là. Puis là, mais je pense que puis là aussi tu as eu un bloc, il y a eu quelque chose. Elle m'a dit non, c'est pas possible, c'est pas maintenant. Puis moi j'ai vu des contractions, j'ai vu plein de trucs pendant. Bon, j'avais jamais vécu ça, mais pendant les, je sais plus, c'était quoi, 6 heures, puis je crois après 6 heures, ou 6, 7, même, non, je crois 9 heures. Et puis à 9 heures, j'ai vu vraiment le. Puis non, et puis ça a fait un blocage, puis après, depuis, j'ai plus rien vu bouger, quoi. Et puis après,
on contrôlait quand même régulièrement le cœur du bébé, parce qu'on avait acheté un Doppler, et puis on avait appris à l'utiliser avant. Donc ça aussi, on savait que même si là, ça faisait déjà longtemps, toute la nuit que ça travaillait, on contrôlait son cœur régulièrement et puis on savait qu'il n'était pas en détresse, que ça allait bien. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était rassurant pour nous aussi pendant le travail. Et puis...
on précise qu'on n'avait jamais utilisé de Doppler avant. Et on a appris nous-mêmes sur Tiffen quand...
C'était génial parce qu'en fait, Raph avait vraiment appris à détecter où était... la tête de notre mini-nous, ses fesses, etc. Puis le jour où on a utilisé le Doppler pour la première fois, c'était vraiment joli parce que j'étais sur le dos, dans le lit. Puis il dit, bon, alors, normalement, la tête, là, je la vois là, les fesses ici, donc son dos, il est là, donc son cœur, il devrait être là. Il pose le Doppler, puis ça fait tout, 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 tout.
Parfait.
Là, waouh, la classe.
Ouais, mais ça aussi, c'est quelque chose que je peux dire que j'ai réussi à le faire comme ça. C'était pas vraiment un coup de bol, parce qu'après, je l'ai refait aussi. Mmh. C'est juste que j'ai appris à observer ton... J'ai pas pris de cours. Je savais même pas ce que c'était un Doppler. Je savais que le Doppler, c'est un appareil que tu devais le poser vers le cœur du bébé, point. Et du coup, bah, après, il faut trouver le cœur du bébé. Mais ça, j'ai pas regardé de vidéo après quoi que ce soit. Par contre, tous les jours, regarder le ventre, regarder comment ça bouge, quand elle bougeait... d'estimer où est la tête, où est les fesses, tout ça. Et puis là, bah, j'étais content de moi parce que de me dire, ah, bah, tout ce que j'ai regardé, observé sur Tiffen, bah, ça vient que de mon observation. Bien donc sûr. Là aussi, les papas, on est aussi fait pour ça. On est fait aussi pour observer, pour regarder. Mais il faut juste passer du temps. Nous, on a passé, on était tous les jours, tout le temps, 24 heures sur 24, ensemble.
Mmh. Et puis, on travaillait pas.
Et on travaillait pas. On pouvait vraiment
vous aviez vraiment le temps d'observer, d'être ensemble.
Oui, bah, c'est important.
Dans les ressentis, quoi.
Ben là, on a tout de suite vu que les 9 mois de grossesse, on a su pourquoi c'était 9 mois, parce qu'il nous a vraiment fallu 9 mois pour se sentir prêt à vivre ça, quoi.
Ouais, s'adapter au changement, à apprendre ce qu'on avait à apprendre, à réapprendre, à se connaître avec les hormones et les changements de, ouais, émotionnels, corporels, etc. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on se disait, mais waouh, ceux qui travaillent à 100%, ils peuvent pas faire tout ça. Enfin, tu peux pas passer ce temps, justement, ces derniers mois, à créer de l'ocytocine et de l'amour.
Faut pas être stressé, faut être vraiment à fond dans ton truc. Et puis, c'est comme tout, si tu fais, je sais pas moi, des tests ou des examens, et puis que durant tes examens, tu peux pas te mettre à fond dans ce que tu fais. Eh ben, tu as moins de chances de les passer. Ben là, c'est la même chose. Si tu ne peux pas te mettre à fond durant ces 9 mois, eh ben, au moment du test, eh ben, il y aura quelque chose peut-être qui va bloquer.
Et là, vous en...
à fond.
Là, vous en parlez en plus en couple, mais c'est déjà le cas dans la majorité des grossesses pour la femme qui travaille jusque très tard, finalement. Notamment en indépendant.
Ben, oui.
En indépendant, on peut travailler jusqu'à 15 jours du terme, quoi.
Ben oui, ben là, moi je donnais l'exemple pour moi. En Suisse, bon, ils ont changé ces derniers temps. Mais si j'étais resté à l'époque en Suisse avec le congé de paternité qui est de un jour en Suisse et notre accouchement il a duré 36 heures, j'aurais même pas pu vivre l'accouchement total de mon enfant. Donc il y a des c'est pas possible, quoi. C'est...
Maintenant, ils ont allongé à 2 semaines. Mais bon, c'est quoi 2 semaines? Là, il a 2 mois, notre mini bout de chou. Ouais. On trouve encore que c'est utile qu'on soit encore les deux à 100% bien avec. Donc,
Puis après, pour l'accouchement, revenir...
Alors, on était où? Alors, on était le lendemain. C'était génial parce qu'il faisait super beau. Alors ça, c'était chouette. Quand il a fait jour, on est sortis, on a marché.
Donc là, c'était 18h.
Ça avait commencé le travail. Et là, je sentais... Comme je disais, je sentais qu'il y avait un blocage, mais je ne savais pas vraiment d'où, pourquoi, comment. Mais en fait, je voulais tellement tout vivre, tout sentir de cet accouchement que, en fait, j'étais dans le contrôle total, mais je ne me rendais pas compte. J'avais l'impression de lâcher prise, mais en fait, je ne lâchais pas du tout prise tellement je voulais sentir, voir et comprendre tout ce qui se passait, tellement j'avais lu et appris là-dessus. Alors, ça, c'est un peu le revers de la médaille parce que j'étais tellement consciente de tout ce qui se passait dans mon corps qu'en fait, je n'arrivais pas à lâcher. Donc, c'était génial parce que je pouvais dire où j'en étais dans le processus, mais en même temps, je n'arrivais pas vraiment à lâcher.
Ça te connectait quand même, du coup, à ton néocortex, quoi.
Voilà, c'est ça.
En fait, je pense, à mon avis, trop aussi renseigné parce qu'il y a des trucs que tu bloquais. Non, c'est pas possible ça. Puis au lieu de te laisser complètement aller, d'ailleurs, bah, t'en es la preuve parce que toi, tu l'as remarqué après, quoi.
Ouais. Puis du coup, bah, là, je me dis quand même, c'est pas normal. Ça fait 18 heures, là, ça commence à être un peu lourd. Et puis du coup, on avait contact avec une sage-femme, mais elle nous avait pas du tout suivi ou quoi que ce soit. On avait juste... écrit des messages comme ça.
Sans plus.
Et puis, Raph, il dit, mais est-ce que je lui fais un message quand même et tout? Je dis, ouais, ben, je sais pas, c'est... C'est gonflé, je sais pas. De toute façon, elle a rien à perdre. Au pire, elle répond pas, au pire, elle peut pas. Et puis, du coup, il lui fait un message, puis elle dit, OK, ben, on s'appelle en WhatsApp, en vidéoconférence. Mmh. Et puis, c'était chouette parce qu'elle a été là, elle était disponible, elle n'était pas avec nous en vidéoconférence pendant le reste du travail, mais elle était vraiment disponible pendant tout le reste du travail. Et là, elle disait, mais il y a certainement qu'il a, bébé, la mauvaise position, il est mal engagé. Et c'est ça qui ne permet pas de descendre comme il faut.
Donc on a essayé toutes les positions, là, durant donc, toute la journée, même...
Elle nous a conseillé justement des positions qui favorisent des changements pour qu'il puisse remettre sa tête comme il faut, puis qu'il puisse s'axer correctement.
Et donc, on peut vraiment dire qu'on a fait toutes les positions durant ces 36 heures, parce que c'était...
le Kama Sutra de l'accouchement.
Et puis là, c'est ce que je disais aussi... Le papa, parce que moi j'ai été tout le long à côté de Tiffen, au bout d'un moment, parce qu'elle, elle avait, bon, je dis pas, elle souffre deux fois plus que, même 10 fois plus que toi, ça c'est clair, mais elle a quand même les hormones et tout, et toi t'as pas ça. Puis au bout d'un moment, moi je fatiguais, et puis c'est drôle parce que normalement moi je fatigue beaucoup moins vite que elle. Puis là j'ai remarqué que elle avait sa dose de justement d'hormones. On voit que elle est faite pour ça. Et moi j'arrivais plus à suivre. Après au bout d'un moment je pouvais plus quoi. J'arrivais plus dans les positions de tenir des positions pour essayer de la tenir. C'était vraiment. Mais c'était beau parce que aussi on se sent super utile de se dire. Je lui donne pas que la main à ma femme, mais je suis là, c'est moi qui, c'est, là aussi, je suis allé toucher le col, voir la dilatation du col, toutes ces choses-là, et puis, de se dire, le col, il est comme ça, et c'est trop beau parce que ça rend, ça met en confiance déjà la femme, et puis, le papa, ça le met aussi en confiance de dire, oui, le col, il est comme ça, oui, ça, c'est bien, et puis, les deux, on sait un peu comment l'accouchement se déroule. En plus, avec le Doppler, pour voir si bébé ne se fatiguait pas. Donc, toutes ces petites choses, c'est peut-être des tout petits trucs, mais de les faire, ça nous met plus en confiance. On sait où on en est dans l'accouchement.
Mm-hmm. Il ne faut pas avoir peur pendant l'accouchement, parce que la peur, c'est de l'adrénaline, puis c'est ça qui coupe l'ocytocine, et puis qui peut mettre des complications dans l'accouchement. Alors, la peur, moi, je dois dire que franchement, je n'en ai pas du tout eu pendant l'accouchement. Et puis du coup, c'est vrai que ça, c'était génial parce qu'on était... on savait justement, on se disait, c'est bon, le col, il y a dilatation totale, bébé, il va bien. Mm-hmm. Donc, il n'y avait pas de peur. Après, c'était la durée qui commençait moi, je commençais à fatiguer sur la durée. Puis après, au bout de 30 heures, j'en pouvais plus, en fait. J'ai dit, mais moi, il faut qu'on soulage cette douleur, je vais crever, quoi.
Tellement puis là, j'ai vraiment mal. Vu, tout le long, elle avait mal, mais là, c'était vraiment en pleurs et puis vraiment un regard de me dire, non, mais là, je suis vraiment désolé, mais il faut qu'on aille à l'hôpital, j'en peux plus, c'est trop pour moi. Puis même qu'elle m'avait dit, si je te dis que je vais aller à l'hôpital, on n'ira pas à l'hôpital, mais là, le regard qu'elle m'a lancé, que tout, je dis, là, on va aller à l'hôpital, quoi, ça sert à rien de... Mm-hmm. On voyait un regard désespéré, puis même vraiment déçu, parce qu'au fond d'elle, elle avait vraiment pas envie d'y aller. Mm-hmm. Et puis c'est là qu'on est parti après 30 heures à l'hôpital.
Et puis en fait, il y avait le frère de Raph qui était pas loin de nous, du coup, il avait
une
petite voiture, puis il dormait dans sa voiture vu que le travail était en route et tout, puis il a dit, je reste là au cas où. Et puis, mais il était quand même plus loin.
Et du coup, il nous a prêté la voiture, mais pour aller jusqu'à la voiture, Stéphane, elle s'est déjà couchée 3 fois dans la forêt, 3 ou 4 fois, je ne sais plus.
J'étais à moitié nue avec juste une petite, un petit pull qui ne fermait pas, et c'est là que je me disais, je me suis dit, après, sur le moment, je m'en foutais, mais je me suis dit, c'est vrai qu'effectivement, à un moment, à un stade dans l'accouchement, il n'y a plus de pudeur, quoi. Pour être à moitié à poil devant le beau-frère, il n'y a vraiment plus de pudeur à un moment.
C'est clair. D'où l'importance d'avoir un coin assez intime pour être sûr que franchement
c'est clair.
Après on est parti justement là à l'hôpital, puis là aussi c'était le sketch parce que on savait où était l'hôpital, mais l'hôpital en fait n'était pas, il y avait des urgences mais c'était pas la bonne porte, fallait aller à une autre porte. En plus on arrive aux urgences, imagine le gars qui arrive avec sa femme qui est juste avec un petit manteau, donc à poil dessous, avec sa frontale allumée, son sac de trek, puis qui dit... Donc eux, ils parlaient tout juste l'anglais. Et puis que je dis, ben, on vit dans notre campeur, mais ils pensaient qu'on faisait du camping.
Ils pensaient qu'on était en camping, puis j'étais en train d'accoucher parce qu'on a fait du camping.
Et ah, puis oui. Après, ils comprenaient pas, puis je leur expliquais que... tant bien que mal, que justement, non, mais c'est bon, elle est à terme, tout est très bien. Maintenant, ça fait 30 heures que le travail se fait. Par contre, ben voilà, elle a la dilatation, tout est OK, tout est bien. Par contre, bébé ne descend pas, puis elle a besoin d'un antidouleur, une péridurale ou quelque chose du genre. Et puis, du coup, ben, ils nous ont amenés vers la salle du gynéco.
Oui.
Donc là aussi, c'était le sketch parce qu'ils ne trouvaient pas l'ascenseur.
Quel ascenseur c'était, donc on a eu droit à je sais pas combien d'étages d'ascenseur aller-retour, et en plus il y avait des marches d'ascenseur.
Mais à l'hôpital dans les années 60, ouais, en gros, c'était ça. Et puis bon, bah, ça on le savait, hein, on savait que ça pouvait se passer comme ça. Puis après, par contre, quand on arrive, c'est là qu'on a vu bah, justement la médecine bien comme on l'aime pas, nous, parce que moi je lui explique de tout. Je lui explique exactement bah, tout ce qui s'est passé et tout. Puis j'ai dit, mais le col, il est tout bon et tout ça. Et le gars, il ignore. D'ailleurs, c'est genre, je suis une grosse merde, mais vraiment dans ce sens comme ça. Genre, grosse punition parce qu'il fallait venir avant. Et il fourre sa main comme si Tiffen, c'était une dinde. Il va contrôler le col et tout ça. Puis il fait, ah, mais elle est à terme. Le col est bien dilaté. Bébé, il va venir. C'est oui. Ce que je viens de vous dire, quoi. Je veux dire, après, je peux comprendre aussi parce que je pense qu'il y a tellement de papas qui sont pas du tout intéressés qu'ils ont peut-être dû me prendre pour un fou. Mm-hmm. Mais c'est ça que je trouve dommage, comme elle disait Tiffen, de la médecine, ce qu'elle a changé envers un enfantement parce que, on n'écoute plus, ouais, le père, il est exclu. D'ailleurs, après, il voulait pas que je vienne dans la salle d'accouchement, ce qui n'a pas été.
Au début, il disait non, alors vous restez dehors. Puis nous, on était non, alors c'est hors de question. Si lui reste dehors, on reste les deux dehors et puis on accouchera dans le couloir. Hein. Mm. Mais moi, j'aimerais juste un antidouleur, en fait. Puis en fait, c'était vraiment embêtant parce que déjà, il parlait tout ce que bulgare. Il y a juste le réceptionniste des urgences qui nous suivait pour faire à moitié la traduction, mais c'était vraiment approximatif. Et j'arrêtais pas de dire que je voulais juste un antidouleur, que je voulais pas d'autres aides pour l'instant. Je voulais juste un antidouleur. Et puis ils ont commencé à me donner une petite blouse rose. Je mets la petite blouse rose. Après, finalement, ils ont été d'accord que Raph vienne dans la salle d'accouchement, mais il devait rester en retrait. Après, ils m'ont posé une perf. Puis ils m'ont injecté plusieurs produits directement. Puis je disais, mais c'est quoi dedans? C'est quoi? Puis ils m'ont jamais répondu. Donc je ne sais pas ce qu'ils m'ont injecté. Je ne saurais jamais ce qu'ils m'ont injecté. Et à un moment, ils me font me poser sur cette fameuse table d'accouchement. Je dis, mais vous avez mis de l'antidouleur, c'est de l'antidouleur. Puis ils me mettent une perfusion. Et puis là, je tourne le sachet de la perfusion. Puis c'était écrit ocytocine. Je dis, mais non, moi, je ne veux pas d'ocytocine. Les contractions, elles sont bien. Le col, il est bien. Enfin, c'est nul. Et du coup, je suis assistante vétérinaire. Donc, je sais comment ça fonctionne, les perfusions. Et du coup, j'ai arrêté la perfusion. Et la sage-femme, elle me tapait sur les mains pour que j'arrête d'arrêter la perfusion.
Elle te mettait le masque sur le visage, elle ne pouvait plus souffler. Alors moi, j'allais y enlever le masque. Entre-temps, le médecin me repoussait, je le repoussais.
C'est presque parti aux mains, parce qu'en plus, Raph disait qu'il ne voulait pas couper le cordon tout de suite, au moins qu'ils attendent la sortie du placenta, puis ils n'étaient pas d'accord. Et puis à un moment, il me désinfecte l'entrejambe en vue d'une épisiotomie. Et là, j'étais là, ah non! Non, non, stop, j'ai arraché la perfusion. Ah oui, parce que aussi des fois, dès que j'étais en contraction, je bougeais sur la table. Donc, il me poussait, il m'appuyait sur la table, puis il me mettait des sangles et il m'attachait. Et du coup, là, j'ai dit non, non, c'est stop, fini, terminé. Je regarde Raph, puis je lui dis, on se casse, bébé, il n'êtra pas dans cet hôpital. Alors, j'ai arraché la perfusion, je me suis détachée de leur table, j'ai enlevé ma petite blouse rose, je me baladais à poil dans les couloirs de cet hôpital. En plus, j'avais perdu les os, donc j'ai marqué ma trace partout dans les couloirs.
Mais c'est là qu'on a remarqué que quand tu veux vraiment quelque chose, parce que quand j'ai poussé le médecin, Tiffen, elle a arraché la perfusion, je l'ai reprise et tout ça, ils nous ont regardés, puis genre, ils nous ont dit, ah mais eux, de toute façon, quoi qu'il se passe, ils feront ce qu'ils voudront, quoi. Parce qu'on était tellement déterminés que ils étaient là un peu bouche bée. Puis après, ils nous ont juste fait signer
une décharge
comme quoi ben, on était responsable. Donc, on l'a signé totalement. On a dit, ben voilà. Et puis, on s'est barré.
Ouais.
Et puis, on s'est barré. Donc, ils ont, je pense que c'est la première fois de leur vie et la dernière fois qu'ils vivront ça. Et puis, du coup, on est retourné dans la forêt. Et puis,
là c'était joli parce qu'en fait, on a rappelé la sage-femme en disant, ben voilà, on est parti de l'hôpital. Ça s'est passé comme ça, très, très mal. Je ne sais pas si j'ai eu de l'antidouleur ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va mieux. Alors, est-ce que c'est le fait de l'adrénaline qui a un peu tout coupé, mm-hmm. ou est-ce qu'ils m'ont vraiment injecté un truc? Je ne sais pas.
Ou le fait que si tu es allé à l'hôpital, puis tu as vu que ce n'était pas du tout à l'hôpital que ça va se faire, que voilà. Ça t'a fait ton déblocage. Je pense que c'est plutôt ça.
Puis c'était joli parce que la sage-femme, avant qu'on parte à l'hôpital, elle dit, mais si tu ne sais pas si tu dois y aller ou pas, demande à ton bébé où est-ce qu'il veut naître. Puis je dis, ouais, bah, j'ai bien compris le principe, mais là, je suis dans un tel état que je suis pas apte à recevoir une quelconque réponse, en fait.
Mmh.
Et quand on est revenu de l'hôpital, il dit, tu vois, t'as la réponse de ton bébé. Il voulait naître à la maison. c'était un joli moment, ça, vraiment.
Et puis bah, là, du coup, Tiffen, il fallait qu'on se repose parce que les contractions, elles étaient un peu plus espacées, étant donné la dose d'adrénaline qu'on avait eue. Puis là, elle me dit, écoute, laisse-moi faire, je gère mes trucs, je l'ai vraiment senti, de toute façon maintenant on n'a plus le choix, donc je laisse faire, c'était vraiment ça.
Et puis, j'ai eu mon lâcher prise, je crois, ouais. Là, c'était le moment en fait, et je lui dis justement, j'ai besoin que tu sois reposée le moment où bébé viendra, donc repose-toi ce que tu peux, moi je gère mes contractions comme je peux, on va les laisser revenir régulières et intenses, et puis on verra bien quoi.
Mmh.
Et puis, ça n'a pas duré longtemps. Hein.
Trois quarts d'heure.
On ne sait pas combien de temps vraiment, mais on s'était dit entre une demi-heure et trois quarts d'heure, maximum une heure.
Voilà, elle me réveille, elle me dit maintenant, chouchou, cette fois-ci, c'est la bonne.
Parce que là, j'ai vraiment senti les contractions différentes. Je sentais que ça poussait, que c'était puissant.
Enfin, toi, tu ne gérais plus rien.
Je ne gérais plus rien. Enfin, je laissais juste aller, en fait.
Et puis, là, elle me dit ouais, cette fois-ci, c'est bon. Donc, du coup, de toute façon, j'étais juste à côté d'elle. Et puis je me mets derrière, elle était en position à quatre pattes. Et puis, j'ai plus le souvenir des premiers moments où la tête, les premières visions de la tête qui sort. Par contre, je vois encore à partir des yeux, quand ça commence de sortir, puis après le petit nez qui vient. Et puis, j'ai pas vu de vidéo d'accouchement avant, et tant mieux. Mais donc j'étais vraiment total, j'ai rien appris à part j'écoutais tout ce que Tiffen me disait. Je regardais tout comme elle bougeait. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je suis le premier à savoir qu'elle était enceinte avant elle. Et puis, en plus de ça aussi, c'est que là, au tout début, quand après une ou deux heures de contraction et tout, j'ai dit, je suis sûr que tu vas accoucher dans la position à quatre pattes. Et puis, elle était dans cette position-là parce que je voyais vraiment que c'était là que ça bougeait le plus. Et puis, là, elle était à quatre pattes. Et puis, il y a ce petit nez qui sort. Et puis... Puis de voir ça, alors c'est de l'euphorie. Puis en même temps, on ne sait pas parce que bébé, il a la tête un peu bleue. On ne sait pas s'il respire ou pas avec tout ce qui s'est passé là à ce moment. Donc on attend. Et puis en plus, je vois encore l'image. Puis je dis à Tiffen, c'est quoi ça? Parce qu'elle avait le mini bout de chocolat, il est sorti. Il y avait la bouche qui, elle avait la main dans la bouche. Et du coup, il y avait les petits doigts. Sa main, elle était dans la bouche, puis ça faisait la tête un petit peu bleue, et puis la main était toute blanche. J'étais, mais c'est quoi, c'est un alien? Ouais, j'étais là, il y a quoi? Il y a des tripes qui. Dans ma tête, c'était là, c'est quoi des tripes qui ressortent? J'étais, oh, il fait quoi? Puis après, j'étais, ah, mais non, c'est cette petite main, et puis tout ça. Puis après, il y a eu la tête qui est sortie, et puis après, parce qu'on a eu de la. Maintenant, on a regardé, parce que j'avais laissé mon téléphone, donc on a l'enregistrement. De la naissance, on n'a pas de vidéo mais on a un enregistrement, donc c'est magnifique parce qu'on a pu réécouter après.
Excellent.
Mais il s'est passé, je crois, en tout cas 4 minutes jusqu'à la deuxième contraction où c'est que bébé il est sorti totalement. Et puis là, c'est le truc que moi je rêvais déjà, c'était la première personne à y toucher la tête quand j'avais mis ma main dans Tiffen pour voir le col. Puis je sentais la tête de bébé. Et puis là, quand bébé est sorti, de se dire qu'il n'y a personne autour, il y a juste la femme qu'on aime, on est dans un endroit où c'est qu'on voulait, et bébé il tombe dans les bras, on a bébé dans les bras, on est, et ben là on se sent tout ce qu'on ne s'est pas senti utile durant les 9 mois de l'accouchement en tant que papa, de sentir bah, ce bébé, qui, son enfant qui tombe dans les bras, puis se dire bah, c'est moi qui t'ai accueilli dans ce nouveau monde, mmh. et bah, c'est un truc que tous les papas devraient vivre. Ouais, s'ils le veulent. Mmh. Mais non, en tant que papa, c'est un truc que je dis pas, tu n'es pas obligé de. Tu peux avoir un médecin à côté de toi ou n'importe qui à côté de toi, mais quand bébé, il sort de la maman, je sais pas, je trouve que c'est. Sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir un enfant. Après, moi, c'est mon avis personnel. Mais c'est vrai que ce moment-là, eh ben, on va jamais me l'enlever. Et puis de l'avoir vécu, j'étais trop fier, quoi. Et puis après, bon, après, j'y ai donné à Tiffen, elle l'a mis sur le ventre. Le bébé, il a fait le crawl du nourrisson. Et puis, il a tété. On était un peu euphorique, tout ça, tout s'est bien passé. On savait que ben il y avait encore l'étape placenta, donc.
Puis on savait que ça pouvait sortir entre 5 minutes et 1 heure environ.
Ouais.
Puis en fait, moi j'ai rapidement été, j'ai senti un peu des contractions, mais j'ai rapidement été un petit peu à plat.
Ouais.
Et puis après, je sentais plus trop les contractions, j'étais vraiment pas terrible, terrible.
Et puis en fait, au bout d'un moment, Tiffen, elle me dit, ah ben je crois qu'il y a le placenta qui sort. Puis je la voyais qui commençait de vraiment fatiguer beaucoup. Puis je me suis dit, bon ben c'est normal avec le, comment dire,
l'effort, le temps.
Avec l'accouchement, voilà. Oui. Mais ce que j'avais déjà remarqué, c'est qu'elle avait déjà perdu beaucoup de sang.
Mmh.
On savait que c'était 5 décis de sang au maximum. Puis là, elle avait déjà perdu. Les 5 décis étaient déjà passés. Donc voilà. Et après, elle m'a dit, ah, c'est bon, je crois que le placenta est sorti. Et en fait, il sortait des caillots de sang de la taille du placenta.
Mmh.
Et là, j'ai compris que. Donc moi, j'avais deux hantises, c'est que bébé soit mal placé et puis que ma femme fasse une hémorragie. Donc bébé mal placé, c'était fait. Et là, j'ai tout de suite compris que ma femme faisait une hémorragie. Quoi.
Mmh.
Et du coup, j'ai rappelé la sage-femme pour lui dire que je lui dis écoute, ça fait maintenant une heure et quart, je dis le placenta n'est toujours pas sorti et Tiffen, elle était tombée une fois dans les pommes.
Mmh.
Donc je l'ai réanimée, après j'ai appelé la sage-femme et puis là elle m'a dit bon ok, montre-moi ce qu'elle a déjà perdu comme sang. Et en fait, dans notre campeur, c'est un lit de 1m20 sur 1,80. Et puis après, tu n'as quasi plus de place, quoi. Mais il y avait du sang partout.
Mmh.
Et puis, quand elle a vu comment c'était, elle était là, OK. Ben maintenant, il faut absolument que tu sortes le placenta. Et là, j'ai tout de suite compris que c'était une urgence, quoi. Tu peux plus. Mmh. La vie de ma femme était entre mes mains, quoi. Je pouvais plus aller à l'hôpital, je pouvais plus.
Non, c'était maintenant.
C'était maintenant. Une rétention placentaire, fallait agir, ouais.
Ouais, parce que ça coulait, quoi. Il y a le sang qui coulait, et puis, puis les caillots qui sortaient et tout. Donc, je pose le téléphone, et là, elle me dit, bah, tu prends le cordon et tu vas voir où est le placenta, s'il est tout près, où se place le placenta à l'intérieur. Et là, ben, je mets ma main dedans et je vois que j'ai dit, mais il est tout au fond. J'étais tout dedans la main, puis je sentais, mais il était vraiment tout en haut, quoi. J'arrivais tout juste à le sentir. Et elle me dit, ben, il faut que tu tires, il faut qu'il sorte ce placenta. Donc je tirais, je faisais comme elle me disait, donc des hauts, des bas. En même temps, je réanimais Tiffen parce qu'elle partait dans les pommes, donc elle avait la petite dans les bras. Et puis elle avait bébé dans les bras. Et puis du coup, ben, j'essayais de la réanimer en même temps parce que je savais pertinemment que si elle tombait dans les pommes, elle donnait pas les contractions. Mmh. Et puis ben moi je pouvais rien faire. Donc, c'était regarder sa femme qui partait dans les pommes, qui partait même voire plus que dans les pommes parce que si elle partait, elle pouvait peut-être même ne plus revenir. Bébé en face de moi, mais lui ça allait très bien et je faisais ses hauts, ses bas, le sang qui sortait et puis je sentais que ce placenta ne sortait pas jusqu'au moment, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Où le placenta s'est décroché, il est arrivé un peu en 1000 morceaux, on va dire ça comme ça. J'ai vite massé sur les instructions de la sage-femme qui me disait c'est bien, elle m'a mis vraiment en confiance, elle m'a dit c'est bien, tu fais bien ça, masse bien le vagin ou ouais, l'utérus et tout, et puis maintenant il faut vraiment que ta femme se repose, il faut qu'elle se couche. Et puis, il faut que tu lui fasses tout de suite à manger quelque chose pour qu'elle reprenne des forces.
Mmh.
Et puis là, en fait, bah, elle me dit, bah, il faut que tu cuisines.
On avait à manger, mais on n'avait pas de quoi cuisiner, on n'avait plus la place.
Enfin, et du coup, elle me dit, il faut que tu cuisines. Puis je dis, mais j'avais plus de drap, j'avais plus rien, parce qu'il y a tout qui était en sang et tout. Je dis, j'ai plus rien là, Puis elle me fait, OK. Et puis là, elle dit à Tiffen, elle dit, est-ce que tu es prête à manger du placenta? Et puis bah, c'est là que Tiffen, elle dit, bah oui, moi. Puis ça aussi, on en avait parlé, on savait que ça pouvait arriver, quoi.
Oui, mais c'est vrai que moi, je me suis dit toujours, bah, je reste toujours ouverte à toutes les possibilités. Mais franchement, manger du placenta, non, je pense pas que je le ferais, quoi. Enfin, vraiment. Et puis là, je dois dire que j'étais dans un état où elle me dit, t'es prête à manger du placenta? Je dis, ah ouais. Oh, mais en fait, c'est ça qui passerait trop bien maintenant, quoi. Enfin, c'était impressionnant.
Donc, on a demandé à bébé.
On lui a demandé si c'était OK pour lui de lui prendre une partie de son placenta. Et du coup, ben, la sage-femme a expliqué à Raph comment couper dedans et quelle partie prendre qui était le mieux sur le moment. Et du coup, Raph me servait des morceaux de placenta à la petite cuillère.
Et puis, ouais, j'y ai coupé deux gros morceaux de placenta. Deux bons morceaux de placenta. Et puis, je lui ai donné. Puis après, je l'ai couché. Tiffen, et puis par contre, après la sage-femme nous a laissé.
Elle a dit vraiment le mot d'ordre, c'est horizontalité maximum. Ouais. Et puis, il faut que bébé tète. Et plus il va téter, plus ça va contracter l'utérus, plus ça va arrêter l'hémorragie. Ouais. Donc ça allait parce qu'il tétait vraiment bien, bien, bien.
Et puis c'est là que aussi, moi j'étais sur mon. Donc Tiffen dormait. De temps en temps, j'essayais un peu de la bouger, voir si elle n'était pas. Morte, quoi. Et du coup, j'étais sur mon téléphone, je regardais quels symptômes, qu'est-ce qui fait qu'elle peut avoir encore une hémorragie interne ou quoi que ce soit. Donc là, j'étais vraiment, durant les 5 heures qui suivaient, c'était à peu près ce que j'avais vu, c'est que après tant d'heures, s'il y a une hémorragie encore interne, il y a des signes qui font qu'on voit s'il y a une hémorragie ou pas. Donc, les 3-4 heures suivantes, je n'ai pas du tout dormi. Je regardais. Puis, de temps en temps, j'ai levé la jambe. Je voyais que ça saignait. J'étais là, oh, bordel, ce n'est pas possible. Et puis, du coup, après, petit à petit, c'était bon. Quoi. Après, c'était OK. Elle s'est même réveillée après. Et puis, elle était OK. Elle était dans un autre monde. Mais j'ai vu, elle s'est réveillée. Et puis... ça saignait plus. Et puis là, c'est là que moi, cette fois-ci, c'est moi qui suis tombé, quoi. Après, je suis allé dehors, puis je me suis écroulé, j'en pouvais plus parce j'ai eu, je pense, 50 heures sans dormir avec tous les trucs qui s'étaient passés, sans manger et tout. Mais c'est là qu'on voit, quand ce qu'on a vécu là, oui, il faut être prêt. Puis on y était parce que un truc comme ça, si on n'est pas prêt, c'est pas possible. Puis ceux qui nous disent, vous avez eu de la chance, je sais pas si c'est de la chance d'avoir eu une hémorragie puis de rien d'avoir rien eu à côté, de juste j'avais juste mes mains, quoi, pour faire quelque chose. Et puis c'est là que aussi après on voulait pas aller à l'hôpital parce que on voulait pas qu'elle fasse une transfusion ou quoi que ce soit.
Après, donc, si j'avais dû, on aurait fait.
Oui, mais on voulait trouver des autres solutions avant.
Si on peut gérer nous-mêmes ce côté-là, c'est bien aussi. Et en fait, moi, c'est vrai que ça fait des années que je me renseigne sur l'alimentation, etc. Et on avait la grande chance d'avoir nos amis qui étaient encore là, du coup. Le frère de Raph qui était là, qui était aux petits soins pour nous, qui nous ont fait à manger. Et du coup, moi, on m'a fait des milkshakes de spiruline, lait d'amande, oléagineux, du gras, du fer, à profusion. Et en fait, après une semaine... Je tenais debout après une semaine. Après, je n'ai pas marché exprès, mais j'arrivais à me lever pour aller aux toilettes déjà après quelques jours. Enfin, c'était assez impressionnant. Je pense qu'après une semaine, j'étais comme une femme qui avait accouché de manière normale, quoi. Et ça, c'était vraiment impressionnant, sans avoir fait de transfusion. Parce qu'il faut dire quand même que Raph a calculé la quantité de sang qui est sortie par rapport au caillot. J'ai perdu plus de 3 litres de sang,
qui est
quand même plus de la moitié de mon sang, quoi. Donc, c'était vraiment énorme.
Ouais, c'est énorme. Quelle aventure, waouh!
Et puis, du coup, c'est chouette parce que notre mini Boutchou, il a bien tété. Et puis, du coup, on lui a laissé son placenta. On a fait un bébé lotus. On voulait à la base laisser jusqu'à ce que le cordon sèche et tombe tout seul. Puis, au bout de 40 heures, le cordon était tellement sec qu'on avait peur d'abîmer son petit nombril en le déplaçant. Et on a coupé au bout de 40 heures, mais on a continué à entretenir le placenta tous les jours, puis de le laisser tout près comme s'il était encore attaché. Et ça aussi, on a trouvé que c'était tellement génial parce qu'elle est devenue très vite très rouge, très rose, vraiment.
Ouais, bah c'est souvent maintenant ils nous disent genre ah oh, ben moi j'ai fait avec le placenta, j'ai fait de d'homéopathie ou des choses comme ça. Puis maintenant quand on y repense, on dit mais ça sert à quoi de faire des pilules pour lui donner par la suite quand tu peux lui donner directement quand il est né quoi. Et c'est vrai aussi même spirituellement après tout de garder cette partie de on va dire de bébé avec nous dans la cellule et puis de s'en occuper comme on dit bah c'est un peu le jumeau et puis après d'avoir même fait une petite cérémonie parce que autant moi-même que Tiffen on n'est pas du tout croyant dans ces trucs de Dieu ouais de comment dire de
ouais, on n'a pas vraiment de religion
voilà on n'a pas vraiment de religion et tout mais là c'était important pour nous de laisser ça à l'endroit où c'est qu'on était. En plus, on l'a mis dans le trou de la hutte de sudation, mais sans le savoir, on avait une copine qui était là, qui nous a fait une petite cérémonie. Elle a fait un peu des recherches. Bah, c'était la hutte de sudation, ça équivaut aussi au ventre de la femme, c'est la terre-mère.
Dans la symbolique.
Ouais, dans la symbolique, c'était vraiment ouais, nickel. Et puis, la rivière à côté et tout. Donc, il y a déjà eu aussi... Bah, moi, la seule eau que j'avais, c'était l'eau de la rivière pour nettoyer tout le sang, tous les draps et tout. Puis là aussi, ben, la rivière, elle a nettoyé toutes les impuretés. Puis tous les caillots de sang, tout ce qui était mauvais, ben, c'est parti grâce à la rivière. Après, ben, pour remercier, on a laissé le... Mais ça, c'était sans le savoir. Et puis c'est vrai que dans la cérémonie qu'elle nous a fait, ben, c'est tout un cycle. Et puis, nous qui sommes hyper ben, avec la nature, avec ces choses-là, hyper respectueux et puis tout ça, ben, c'était... ouais, tout s'est passé comme qu'on voulait. On peut pas dire que on a raté notre accouchement ou qu'on a vraiment fait tout comme on voulait. Et puis de dire que notre mini bout de chou est arrivé là. Plus tard, s'il veut aller voir l'endroit où c'est qu'il est né, où c'est que son placenta il a été posé. Et les premières choses qu'il a vues, c'est les arbres, le vent dans les arbres, les arbres bouger, le son de la rivière, des oiseaux. Aucune lumière artificielle et tout, c'était hyper important pour nous. Et puis ben on a réussi quoi. Donc ça c'était.
Alors c'est vrai que c'était pas un accouchement entre guillemets de rêve où on n'avait pas imaginé l'option hôpital traumatisant et l'option hémorragie. Mais finalement bah c'était aussi chouette d'avoir vécu un truc pas si facile entre guillemets parce que il y avait justement de dire bah ok c'était pas si facile mais on l'a fait en autonomie comme on le voulait finalement et on n'a pas eu besoin vraiment d'aide extérieure et en fait ben voilà c'est ce qu'on dit c'est là où on dit non on trouve pas qu'on a loupé notre accouchement et puis qu'on aurait fait les choses différemment
ça s'est passé comme ça
devait se passer et puis c'est là que tu vois que quand tu suis vraiment ce que tu as envie de faire ben ça se passe bien. Parce que nous, c'est vraiment...
C'est pas forcément que ça se passe bien, ça peut se passer mal, mais si t'es persuadé, puis que t'es en pleine conscience de ce que tu fais, puis que t'es sûr de toi, et puis que t'as vraiment envie de le faire, que ça se passe mal ou bien, eh ben, tu vas le faire.
Ouais, c'est ça. Donc, et puis, je pense qu'il y a aussi une autre chose, c'est que finalement, là, c'était pas forcément la naissance idyllique et dans le côté techniquement, physiologiquement, hyper facile, tout ça, mais à côté de ça... vous n'y étiez pas senti à l'aise et c'était pas forcément des conditions. Cette hémorragie, elle aurait été peut-être pire encore si tu t'étais senti dans un endroit en insécurité complète.
Ouais, voilà, exactement. Ouais, puis moi, c'était mes deux hantises. Et maintenant, on me dirait, tu vas vivre un. Après, c'est clair, quand je demandais, j'aime pas trop me renseigner parce que plus je me renseigne, plus ça me fait peur.
Oui.
Donc, le fait, je me dis, ça va se passer comme ça se passera. Après, faut être prêt à passer tous les caps qu'il peut y avoir. Mais on m'aurait dit, tu vas vivre une hémorragie et puis un bébé mal placé. J'aurais dit à Tiffen, écoute, on fait pas ça. Moi, je fais pas ça tout seul. Point. Donc, ça, c'est clair. Mais comme on peut pas savoir, et ben voilà. Par contre, je savais pertinemment que si ça arriverait, et ben qu'il fallait que je sois capable de gérer ça. C'est pas si ça arrive, moi je me casse quoi.
Oui, et puis l'hémorragie, on sait pas non plus. Comme je dis souvent, on sait que l'ocytocine de synthèse, ça favorise les hémorragies. Et puis j'en ai eu à l'hôpital et je sais pas ce qu'ils m'ont injecté d'autre. Est-ce qu'ils m'ont mis un autre antidouleur qui favorise les hémorragies? Je sais pas. Donc est-ce que c'était aussi dû à ce passage à l'hôpital, on ne le saura jamais. On sait que ce qui favorise les hémorragies, c'est justement les choses de synthèse ou les positions qui ne sont pas physiologiques. Là, ce n'était pas le cas. Mais après, voilà, le long travail favorise aussi les hémorragies. Mais du coup, on ne sait pas vraiment à quoi...
Les mystères aussi.
Mais du coup, on a quand même réussi à gérer ça, alors que normalement, quand on dit hémorragie, on dit hôpital, etc. Donc,
souvent, c'est vraiment aussi le côté heureusement qu'il y a la médecine. Alors, on peut l'entendre à toutes les sauces. Hein. Heureusement, j'étais à l'hôpital parce que mon bébé, il avait le cordon autour du cou. Bon, la majorité du temps, il suffit de l'enlever. Heureusement que j'étais à l'hôpital parce que... Et donc, l'hémorragie, je pense qu'elle figure en number one, quoi.
Oui, exactement. Super. Exactement. Mais finalement, c'était pas une obligation d'aller à l'hôpital pour une hémorragie.
Ouais. Mais bon, il faut être.
Mais après, voilà, on n'a pas non plus fait n'importe comment. Voilà, j'ai été allongée pendant une semaine quasi stricte. Pendant une semaine, j'ai quasi pas bougé à part pour me lever pour faire pipi. Et c'est tout ce que je faisais. On me lavait allongée, on m'a allongée, on avait justement ce couple d'amis qui étaient avec nous et qui nous ont suivis pendant un mois, qui nous ont fait, on n'a pas fait à manger pendant un mois. C'est eux qui nous faisaient tous les repas pendant un mois.
C'est génial.
Et ça, c'était une chance, mais inouïe. Et eux non plus, on les avait pas préparés.
Non.
On n'avait pas préparé qu'ils soient là.
Mais quand on fait des fois des trucs, puis qu'on est persuadé de ce qu'on fait, y a des petits anges gardiens comme ça. Et puis, là, on en a eu deux qui étaient là vers nous, pour nous, et puis qui nous ont.
C'est parfait, vous avez eu
énormément aidé.
Vous avez même eu votre village mobile, quoi.
Exactement.
Exactement. Et là, c'est ce qu'il y en a qui disent, pour avoir un enfant, il faut un village pour les débuts, il faut une petite communauté. Et nous, on l'a eu, quoi.
Ouais. Ah, c'est super.
Même en mode nomade dans la forêt en Bulgarie.
Parfait. Bon, merci beaucoup d'être venu livrer ce magnifique récit. Moi, je trouve qu'il est hyper riche, il y a tellement de choses. Je suis vraiment contente que vous soyez venu pour le conter ici.
Merci à toi de nous avoir invités à ton podcast.
Ouais, c'est toujours un plaisir de partager.
Ouais, chouette. Est-ce qu'il y a du coup peut-être une petite phrase, un petit truc que vous avez envie de partager aux parents qui écoutent?
Sinon, on l'a fait. Ils peuvent le faire. Okay.
Alors, ceci dit, Raph, tu dis ça, mais en même temps, moi, j'irai pas tout tirer mon chapeau parce que je pense que c'est ce que vous avez fait ensemble et puis c'était votre chemin et qu'il est magnifique comme ça. Mais en même temps, je trouve ça chouette aussi parce que j'imagine qu'on est quand même très nombreux à se reconnecter à son corps, à ses sensations, à son cycle. Et je pense que vous êtes dans cette démarche-là depuis longtemps, mine de rien. Mais je pense que pour beaucoup, c'est un petit peu compliqué aussi. Donc là, il a fallu oser également suivre les consignes qui t'ont été données à ce moment-là. Et ça ne devait pas être évident quand même. Je pense typiquement le moment où tu t'es dit « Bon, allez, je vais chercher le placenta.
» En fait, c'est clair qu'on me l'aurait dit avant. Oui. J'aurais dit « Non, mais moi, je ne veux pas vivre ça. » Mais après, je pense que c'est un peu comme tout l'instinct de survie d'une personne. Je sais pas, souvent il y en a, ils disent non mais moi je vais pas courir, j'aime pas courir, je peux pas courir, mais si on te met un fusil sur la tempe puis on dit tout pendant que tu cours pas, tu vas trouver au fond de toi. Finalement, on est tous humains, on est tous différents, ça c'est clair, mais on est des humains, comme des animaux. Il y a des choses, c'est de la survie. Au bout d'un moment, il y a des trucs, c'est pas toi qui contrôles, c'est l'instinct.
Quand ça devient la seule option, tu fais quoi?
C'est comme il y a souvent des mamans qui soulèvent des trucs parce que leurs enfants sont couchés dessous, qu'il y a quelque chose comme ça, puis on se demande où c'est qu'ils trouvent la force, même elles, mais c'est qu'on est fait pour ça. Et puis je pense que moi qui suis pas du tout aussi à emmener aux mains avec des gens et tout à l'hôpital, s'il fallait foutre une claque au médecin, j'aurais foutu une claque, quoi. J'en avais plus rien à foutre, quoi. C'était vraiment donc il y a des choses aussi, mais maintenant on sait plus vivre ces choses là parce que justement on ne va pas au point à tel point que on va pas assez loin, on va pas chercher profond au fond de nous, et puis du coup on n'arrive jamais à vivre ces instants là qui sont je trouve importants. Je dis pas que c'est facile, loin de là, mais ça permet d'apprendre plein de choses sur nous, et puis Après, voilà, ça, qui prendra voudra, mais faire des études pour accoucher, oui, c'est bien, parce qu'on peut s'intéresser et puis tout, ça, c'est bien. Comme disait Tiffaine, ben, maintenant, on a perdu un peu cette hiérarchie où c'est qu'on explique l'enfantement et tout. Mais à la base, il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de médecine. Ça fait des milliers d'années qu'on est là, ça fait des milliers d'années que la femme, elle enfante. Pour moi, ben, c'est pas... Oui, la médecine aura aidé sur certains points et puis pas aidé sur d'autres points, mais la preuve, parce que qui veulent même plus accoucher sans sentir la douleur ou quoi que ce soit. Et puis voilà, à la base, on est quand même fait pour enfanter. Donc,
complètement.
Donc si on reprend les choses à la base, ben, je pense qu'il n'y a rien à prouver. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, c'est comme ça.
Oui, bien sûr. Et toi, Tiffaine, à ce moment-là, toi, tu as des souvenirs où tu étais vraiment dans le vague et c'était loin?
Alors, moi, j'étais dans un autre monde, vraiment. À ce moment d'hémorragie, j'étais vraiment à l'ouest, quoi. En fait, j'étais bien, je me sentais vraiment bien. Et c'était...
T'avais ton bébé?
En tout cas, si je devais mourir d'une hémorragie, c'était pas douloureux, c'était même agréable. Je regardais Raph et puis je lui disais « Ah, ta barbe !» C'est marrant, elle est noire et blanche.
Ça me rassurait énormément. Là.
Et puis moi, je lui sortais ça. Et puis lui, il était, non, mais concentre-toi. Sors le placenta. Vas-y, écoute tes contractions et tout. Et puis moi, je n'étais pas du tout dans cette réalité. Quoi. J'étais totalement à l'ouest.
Ouais.
Et le seul réflexe que j'avais, c'est de tenir Mini Bouchou dans mes bras. Et c'est tout ce que je faisais.
Ouais.
Parce que tout le reste... Alors, j'ai des souvenirs, à part le moment où je suis tombée dans les pommes, je sais ce qui se passait, mais j'avais tellement pas de force, j'étais sur un petit nuage, en fait. Mais la peur, elle m'a encore pas traversée à ce moment-là, en fait.
Okay.
Vraiment, je dois dire que j'ai vraiment eu zéro peur depuis le début jusqu'à la fin.
Yes.
Moi, on peut pas dire que j'ai eu peur pendant, parce que pendant, si j'avais eu peur pendant l'hémorragie, et ben là, à mon avis, j'aurais pas pu gérer l'hémorragie. Pendant l'hémorragie, comme je disais, c'est juste, j'ai fait ce que la sage-femme me disait, et puis c'est tout. Point. Je faisais quelque chose pour, il fallait, c'était maintenant, puis il fallait le faire, et puis je l'ai fait. Et puis, par contre, ben après, pourquoi je suis tombé red mort, puis tout. Ben c'est parce que ben j'ai lâché prise totale et puis c'est là que...
La pression redescend.
La pression redescend et puis là, on remarque que c'est après coup, même encore maintenant, quand je repense, je revois des images parce qu'on avait filmé ou des choses comme ça, chaque fois je dis à Tiffaine, mais là ça me fait une boule au ventre parce que quand je sais par où c'est qu'on est passé, mais sur le coup, non. Sur le coup, c'est l'instinct qui a pris le dessus, ça c'est clair.
Mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est là que tu vois qu'on est vraiment fait pour ça, parce qu'on n'a pas vu vraiment le temps passer, alors que c'était très long. On n'a pas eu justement cette peur et tout. Après, c'est clair que maintenant, si on devait le refaire, on referait différemment, dans le sens où on prévoirait justement d'avoir... là, on a eu la chance que cette sage-femme nous réponde, mais si ça devait se reproduire, on prévoirait d'avoir... une sage-femme qui soit disponible. Et puis on prévoirait, là on avait des potes qui étaient avec nous et puis qui nous ont plus qu'aidés pendant le mois après l'accouchement. C'était une chance qu'ils soient là, mais si ça devait se reproduire, on les prévoirait.
Oui, parce que maintenant on sait, donc ce qu'on pourra faire mieux, on fera mieux, c'est clair. Et puis là, il y a des couples, des fois maintenant, qui nous posent des questions et tout, puis on leur dit, voilà, nous ce qu'on ferait différemment maintenant, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est notre expérience. Mais après, tu peux prévoir une sage-femme et puis tout d'un coup t'as bébé qui arrive, t'as même pas eu le temps de l'appeler que bébé il est déjà là. Donc
ça revient à ce qu'on disait au début, t'as beau donner tous les conseils et tout, de toute façon tous les accouchements sont différents, et même la même femme sur deux accouchements, c'est tellement différent, c'est tellement imprévisible, c'est tellement tu peux juste te dire ok. Et nous, c'est pour ça qu'on a fait ces formations, surtout moi. C'est parce que je voulais savoir ce qui était normal et ce qui n'était pas normal. Et puis, du coup, de savoir dire « Ok, ça, c'est normal et ça, c'est pas normal », ça, c'est rassurant. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de ce côté de confiance et d'être rassuré pendant l'accouchement, parce que tu ne dois pas laisser place à la peur. Et si tu as suffisamment de connaissances et de renseignements... eh ben, tu peux laisser la peur de côté, et puis justement rentrer dans ton monde, et puis laisser la peur de côté. Et ça, c'est tellement important. Et ce qui freine aujourd'hui les gens dans l'enfantement libre ou autonome ou quoi que ce soit, bah, c'est la peur. Mais la peur, elle vient de l'ignorance. Et moins on a d'ignorance, plus on a de connaissances, moins on a de peur. Et je trouve qu'il y a des choses, ça devrait être enseigné à l'école. c'est tellement un passage obligatoire pour tous ceux qui sont nés. Ils ont passé par un accouchement, qu'ils soient par césarienne, partout. Donc c'est quelque chose qui est tabou, on n'en parle plus. Et ça, c'est tellement dommage. Il devrait y avoir une tellement grande transmission à ce sujet-là. Et c'est pour ça aussi qu'on aime en parler, qu'on est tout content d'en parler sur ton podcast. Et on a envie de rendre ce sujet de moins en moins tabou. Parce que c'est dommage que ça soit tabou. Oui, c'est un acte sexuel. Oui, c'est quelque chose d'intime qu'on vit ensemble. Oui, c'est... Mais en fait, pourquoi c'est aussi tabou? Parce que si c'était pas si tabou et qu'on en parlerait ouvertement, il y aurait peut-être pas autant d'accouchements traumatisants et de femmes traumatisées et de maris traumatisés de ces accouchements qui se passent pas comme idylliquement. Donc c'est pour ça qu'on a envie de partager, de transmettre.
Merci beaucoup. En tout cas, ça fera une super conclusion. Vous pouvez retrouver cette jolie famille et suivre leurs aventures via les différents réseaux en cherchant Hook Mobile. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Vous pouvez contribuer au podcast et participer financièrement via le compte Tipeee Enfanter et Devenir. C'est une belle façon de soutenir ce projet, de le voir grandir et se pérenniser. J'ai même prévu de jolies contreparties à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.